Vous pouvez tourner avec moi, s'il vous plaît, dans le livre des Actes, au chapitre 12. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on tombe en vacances, la famille Étier tombe en vacances comme bientôt, si je finis à l'heure, plus tôt, si je m'étire plus tard. On va aller se reposer un petit peu, on va aller regarder les nuages passer. C'est ça que j'ai hâte de faire. J'ai hâte d'aller me coucher dans le gazon, regarder les nuages passer. Puis ramener mon esprit à cette vitesse-là. C'est ça que j'ai envie de faire. Tout simplement ralentir, prendre du bon temps en famille, du temps avec les enfants, avec Esther, à jaser, à jouer à des jeux de société, puis aller visiter la famille. Cette semaine, on va être à Rivière-du-Loup, dans l'évangélisation aussi. Fait que j'ai hâte de pouvoir aller faire des rencontres avec des personnes là-bas et, par la grâce de Dieu, pouvoir leur partager l'Évangile. Donc, si vous avez à cœur, vous pourrez prier pour nos vacances. C'est un temps précieux et vous-même, profitez-en. Profitez-en pour ralentir. Si vous me demandiez, là, t'es-tu comme en forme pour tes vacances? Je suis brûlé mort. Puis la majorité d'entre vous, c'est dans l'état que vous êtes lorsque vous arrivez aux vacances. Alors profitez-en pour ralentir. Prendre du temps avec Dieu. Aller là où se trouve le vrai repos. Dormir. Se coucher tôt. C'est juste de ça que j'ai envie. Et on va en profiter pendant les vacances. Ouais, on va se coucher tôt. On va essayer. On va se lever tard d'abord. OK? J'ai hâte de revenir déjà en septembre. J'ai hâte de vous parler. Il y a des beaux projets qui sont sur la marmite, comme on dit, sont sur le rond, sont en train de mijoter. Il y a vraiment des beaux projets. Ça me démange de vous en parler, mais c'est pas encore le moment. Alors j'attends le moment de Dieu pour vous parler de ces choses-là. Je veux vous encourager aussi à être fidèle pendant l'été au niveau des offrandes. Comme on l'a mentionné, ça va bien, on est encouragé, mais depuis quelques années, comme vous le savez, depuis qu'on a acheté ici le bâtiment, il y a beaucoup de choses qu'on a dû mettre en attente parce que il fallait s'ajuster ici avec la réalité des charges, tout le centre d'achat, tout ça. Mais on est vraiment encouragé. Depuis 2-3 ans, les choses vont beaucoup mieux. Et déjà, d'arriver comme ça à mi-année avec des surplus, c'est très encourageant. Et ça va faciliter beaucoup de choses, tant pour la mission que pour différents projets pour l'Église. Alors, on va tourner ensemble dans Actes 12 et je vais vous lire les versets 1 à 25 de Actes 12. On vient de terminer avec l'église d'Antioche, l'établissement de l'église d'Antioche, et je le mentionne tout de suite, le chapitre 12 est un passage transitoire dans le livre des Actes. Pour ceux qui sont vraiment, comme toujours dans Actes, vous avec nous, puis vous saisissez un peu la structure, vous voulez comprendre comment ça va, c'est vraiment un passage transitoire avant de se concentrer sur la mission vers les non-juifs, d'accord? Et donc, Luc fait un retour à Jérusalem pour voir quel est l'état de l'église là-bas, puis il nous prépare à entrer dans la mission vers les païens. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rod s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte et lui dire « Tu es folle! » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange! » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Il s'agit de Jacques, le frère de Jésus. D'accord, on a deux Jacques, ça peut être confondant et c'est lui qu'on va trouver plus tard dans le récit. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. On va prier ensemble. Mais Père éternel, nous venons dans ta présence, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu mérites que nous nous arrêtions ce matin, Seigneur. Que nous nous arrêtions pour écouter ta parole, que nous nous arrêtions pour te chanter des louanges et reconnaître, Seigneur Jésus, que tu es le centre de nos vies. Mais plus encore, Seigneur, nous avons connu que tu es le centre de l'histoire de l'humanité. Et Seigneur Jésus, tu seras le centre de notre adoration pour l'éternité. C'est donc bien, Seigneur, c'est donc juste et approprié que ce matin nous soyons ici pour t'offrir nos vies, nos corps, t'offrir des offrandes de louanges et d'actions de grâce. Reconnaître que tu es Dieu et que tu dois être au centre de nos cœurs, de notre quotidien, Seigneur. Père éternel, je veux te demander de venir parler à nos cœurs par ton esprit ce matin. Seigneur, viens donner vie à ce passage, non pas de manière figurée, mais réelle, surnaturelle, spirituelle, Seigneur, dans nos âmes. Que la vie et la mort de Jacques et de Pierre, que la vie de l'Église, Seigneur, au début, que la mort d'Hérode et que ta souveraineté toute puissante, Seigneur, prennent du sens dans nos vies. Et viens nous aider, Seigneur, à choisir de marcher, de vivre pour toi uniquement, pour ta gloire seulement, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit ce matin, Père. Tu connais combien je suis faible, Seigneur, et combien j'ai besoin de ta grâce. Afin de dire ce que tu veux que je dise et afin de vivre, Seigneur, ce message que je prêche. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Amen. OK, ce matin, je commence avec une question existentielle pour vous. Une grande question, le genre de question qui oriente toute une vie et elle est appropriée pour tout le monde. Voici ma question. À qui ou à quoi allez-vous consacrer votre vie? Et peut-être que vous pouvez déjà dire à qui ou à quoi vous consacrez votre vie. À qui ou à quoi allez-vous consacrer votre vie? Vous avez déjà une réponse. Vous savez déjà ce qui s'est passé la semaine dernière, dans les mois précédents. Ce n'est pas une question seulement théorique, ça. Ce n'est pas une question seulement philosophique pour les gens qui ont le temps d'aller prendre un café sur une petite terrasse. Puis à quoi est-ce que je pourrais consacrer ma vie? C'est une question de celle qui oriente les choix de notre vie. C'est une question de celle parmi celles qui oriente qu'est-ce que je vais faire, à quoi est-ce que je vais m'appliquer. C'est une question qui détermine si à la fin de ma vie, j'ai réussi ce que je voulais entreprendre, ou si à la fin de ma vie, j'ai des regrets amers sur ce qui a occupé ma vie. C'est une question qui décide si mes journées sont heureuses ou si mes journées sont malheureuses, quelles que soient les circonstances. Que je sois malade ou en santé, que je sois en prison ou libre, que j'ai un avenir devant moi ou que mon avenir semble néant. Répondre à cette question-là vient faire la différence entre être heureux et savoir que je suis en paix avec ce que je suis en train de faire de ma vie ou être amer à l'égard de la vie, frustré et désolé. À qui ou à quoi allez-vous consacrer votre vie? À la poursuite de l'argent? À la poursuite du confort matériel? À trouver l'amour idéal? À bâtir une famille, un foyer, comme vous le rêvez, une belle famille? À quoi allez-vous consacrer votre vie? Réussir votre carrière? À quoi est-ce que vous allez consacrer votre vie? À des grandes causes humanitaires? Vous savez, quand je pose la question comme ça, un des personnages de l'histoire qui me revenait à l'esprit, c'est Jean-Sébastien Bach. Pourquoi est-ce que je pensais à Jean-Sébastien Bach? C'est parce que, premièrement, parce qu'il était chrétien. Et si vous demandiez au commun des mortels, à n'importe qui sur la rue, à quoi ou à qui Jean-Sébastien Bach a consacré sa vie, ce serait quoi la réponse? À la musique. Mais c'est vraiment ne pas connaître le personnage. C'est vraiment ne rien connaître de son histoire, sinon ce qu'on entend parfois à la radio. Parce qu'il y avait une inscription dans le bas de chacune de ses partitions. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Soli Deo Gloria, à la gloire de Dieu seul. Jean-Sébastien Bach écrivait de la musique comme personne n'a écrit de la musique depuis lui. Personne. Il a atteint des sommets dans l'écriture musicale qu'on essaie encore d'étudier, de comprendre, de saisir. Mais sa vie n'était pas consacrée premièrement à la musique. Sa vie était consacrée à la poursuite de la gloire de Dieu. Et si je vous donne cet exemple-là, c'est simplement pour dire que je peux faire bien d'autres choses qu'être pasteur, par exemple, ou être missionnaire, par exemple, et être en train de poursuivre la gloire de Dieu comme objectif de ma vie. Je peux écrire de la musique. Mais le but de la vie de Jean-Sébastien Bach était la gloire de Dieu dans tout ce qu'il faisait et même lorsqu'il écrivait de la musique. Alors, je vous repose la question. À qui ou à quoi allez-vous consacrer votre vie? La question est importante pour moi. Cette semaine, ça m'a frappé avec des drames encore. Vous savez, l'été, il n'y a plus d'activité politique. Les médias ont juste des drames à nous parler. Je lis la presse tous les jours et puis encore, tu sais. Mais ce qui a attiré plus mon attention dans le drame qui s'est passé cette semaine, plusieurs d'entre vous l'avez sûrement entendu, c'est l'histoire sordide de la jeune fille qui a survécu à la fusillade de Toronto, mais qui était dans la salle de cinéma et qui n'a pas survécu à la fusillade du Colorado. C'est triste, puis c'est pathétique. Puis j'écoutais le témoignage de la mère de son copain, puis elle disait combien c'est une jeune fille qui avait un avenir incroyable. Puis ce qui me frappait, moi, personnellement, parce que ma vie est placée sous la souveraineté de Dieu, c'est pas pourquoi Dieu, c'est à quoi est-ce que sa vie était consacrée, parce qu'on ne connaît pas le moment de notre départ. Esther et moi, on part en vacances. On part pour 4 semaines en vacances. Dans 4 semaines, Dieu voulant, on se retrouve. Je ne veux pas faire mélodramatique, mais si on ne se revoit pas, vous savez à quoi la vie de Yannick Étier et Esther Gartin-Poudrier ont été consacrées. Et vous allez être capable de rendre témoignage que notre vie a été consacrée à la poursuite de l'Évangile, à l'avancement du royaume de Dieu. Et je pourrais rendre le même témoignage de plusieurs d'entre vous. Alors, je vous pose encore une fois la question. À qui ou à quoi allez-vous consacrer votre vie? Et ce qui m'amène à réfléchir à ça dans le passage d'ici, dans le passage de ce matin, c'est la situation que vit l'apôtre Pierre. Je vois Pierre qui est là, puis sa vie tient à un cheveu. L'apôtre Jacques vient d'être mis à mort. Ça m'amène à me questionner. Cet homme-là était dans la force de l'ange. Comme de fait, il va être libéré, il va continuer. Mais on aurait pu dire la même chose de Jacques, certainement. Et ça m'amène à m'interroger. Est-ce que je suis prêt à partir maintenant? Est-ce que je suis prêt à partir tout de suite si, comme on le dit en anglais, je vais le traduire en français, le Seigneur décide que c'est ma promotion dans la gloire qui m'attend dans une heure? Si, comme Jacques, je suis promu dans la gloire, est-ce que je suis prêt à ça? Mais plus que ça, ce qui m'amène à avoir cette réflexion-là, c'est une certitude qui se dégage du passage. Pour moi, il y a une certitude absolue qui se dégage du passage, et cette certitude-là, c'est que l'œuvre de Dieu, Jésus-Christ, va continuer à établir son Église coûte que coûte. Jésus-Christ va continuer à faire avancer son royaume malgré toutes les oppositions qu'il pourrait y avoir contre l'avancement de son Église. Et en bout de ligne, à la consommation de toutes choses, en perspective de l'éternité, ce qui restera et demeurera, c'est l'Église que Jésus-Christ va avoir établie malgré les rois, malgré les chefs, malgré les vies qui auront été consacrées à s'opposer à lui. Ce qui va demeurer dans l'éternité, c'est le royaume de Dieu. Et cette certitude-là m'amène à me poser la question à moi. À qui ou à quoi est-ce que je désire consacrer ma vie? Ce matin, on va voir ensemble que Jésus-Christ va bâtir son Église, que des âmes vont continuer à être sauvées. La parole de Dieu va continuer de se répandre parce que c'est lui qui bâtit son Église. Et notre part à nous est de prendre la décision de lui donner notre vie, de se tourner vers lui lorsque ça ne va pas, d'annoncer sa parole, mais de déposer nos vies pour le service de son royaume. On pourrait résumer le message en trois points, comme d'habitude. Premièrement, que tu le veuilles ou non, qu'on le veuille ou non, Jésus-Christ va continuer de bâtir son Église. Deuxièmement, à nous de choisir à qui ou à quoi nous allons consacrer, donner notre vie. Et troisièmement, à nous de choisir vers qui nous allons nous tourner quand les choses ne vont pas bien. Comme je le mentionnais, le chapitre 12, c'est un chapitre transitoire et l'Évangile est en train d'avancer, l'Évangile est en train de se répandre, puis c'est comme si Luc veut aller prendre une petite photo. Il veut aller prendre une photo de l'état de l'Église à Jérusalem pour nous rappeler ça, puis Jérusalem va revenir en scène un peu plus loin lorsqu'il va y avoir toutes les décisions au Concile de Jérusalem concernant le service des non-juifs, tout ça. Et il vient prendre une photo ici et les choses ne vont pas bien à Jérusalem. Si vous vous rappelez le début du livre des Actes, il y a eu une période, il y a eu un temps où être chrétien, c'était in à Jérusalem. C'était très à la mode. C'était new kids around the block. Les gens les regardaient aller puis ils disaient, wow, ça c'est une communauté intense. Eux autres, ils vivent avec des belles valeurs. C'est génial. Et puis avec la persécution, la mise à mort d'Étienne, les choses ont tourné, le vent a tourné. Ce n'est plus populaire à Jérusalem d'être chrétien. Les politiques, le politique commence à se faire du crédit politique en mettant à mort des chrétiens, voyez-vous. Alors Luc veut nous montrer cela. Luc veut nous aider à voir que le vent a tourné. Et pourtant, ce qui se dégage de ce passage, même s'il y a un apôtre qui est mis à mort, il y en a un autre qui est sur le point d'être liquidé pour comme une espèce de vote populaire, un vote de popularité par le chef politique Hérode Agrippa, le petit-fils d'Hérode. Et il se rend compte qu'il pourrait faire un bon move pour pouvoir monter sa cote, en mettre un autre à mort. Puis on va faire participer par vote populaire toute l'assistance, toute la population de Jérusalem. Pourtant, ce qui se dégage de ce passage, c'est la souveraineté de Dieu. Ce qui se dégage de ce passage, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Pas longtemps, en tout cas. Ce qui se dégage de ce passage, c'est que l'œuvre de Dieu va continuer à avancer. Le royaume va continuer à prospérer. Des âmes vont continuer à être sauvées. On va avancer encore. J'aimerais ça vous lire le psaume 2. Au complet, c'est très court, c'est 12 versets. Mais le psaume 2, c'est un psaume messianique qui nous annonce la venue de Christ et qui soulève toutes ces questions. Je vous l'ai déjà cité dans le livre des Actes, mais parce que lui-même le cite, mais on voit justement l'opposition des rois et on trouve ici Hérode en scène qui veut se servir de tout ça. Et voici ce qu'on lit dans le psaume 2, verset 1. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son élu? » Comme je vous dis, c'est un passage messianique. Vous allez voir le Fils apparaître un peu plus loin dans le psaume. Et voici, ces nations disent, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Mais le psalmiste continue en disant, « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit... » Et là, c'est le Fils qui prend la parole. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. » Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Et à l'intérieur de ce bref psaume, on a l'annonce de la venue de Christ, on a son ministère terrestre qui est un ministère de service, de serviteur. Il meurt sur la croix, il ressuscite entre les morts et on a son retour en gloire. Où il va venir et régner. Et si vous n'êtes pas familier avec le récit, cette eschatologie, l'histoire, comment les temps vont se dérouler, allez lire Apocalypse 1 aujourd'hui pour connaître Jésus sous une autre lumière et vous donner une perspective sur son retour. Voyez-vous, dans ce passage, nous voyons que Jésus-Christ est véritablement puissant. Parce que malgré toutes les oppositions, malgré les gens qui essaient de renverser, le royaume continue à prospérer. Et ceux qui se moquent de lui ne le font pas longtemps. Et ça s'est imposé à moi en lisant le passage et ça s'impose à nous en lisant les Actes. Cette certitude que le royaume de Dieu va continuer à avancer parce qu'il n'est pas entre mes mains. Ça ne repose pas entre ma vie qui est une vapeur, qui passe rapidement et qui est vécue avec tellement d'imperfections et de péchés et d'échecs. L'avancement du royaume n'est pas entre mes mains, ce n'est pas entre vos mains à vous. C'est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et il a vaincu la mort. Alors qui va pouvoir s'opposer à lui? Il est tout puissant, il est souverain. Dieu lui a remis la domination de toutes choses. Qui va pouvoir s'opposer à Jésus-Christ et à son royaume? Personne. Dans Matthieu 16, je vais vous lire rapidement, 16 et 18, sur une déclaration de l'apôtre Pierre, lorsque Pierre a cette révélation de reconnaître que Jésus de Nazareth, cet homme qui est devant lui, est plus que cela, il est le Messie, c'est l'élu de Dieu, c'est lui que Dieu a envoyé pour le salut des Juifs, pour le salut des hommes. Voici ce que Simon Pierre dit, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur cette déclaration de l'apôtre Pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ a donné une promesse, il va bâtir son Église. Et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir empêcher cela. Personne ne va pouvoir le faire parce que Dieu lui a donné la domination. Vous savez que Voltaire, avant sa mort, était convaincu que le christianisme disparaissait en 100 ans. Psaume 2. L'Éternel, celui qui siège dans les cieux, se rit, se moque de ceux qui lui font opposition. Voltaire est mort, mais le christianisme est loin d'être mort. Il avance, il avance, il avance. Et tous ceux qui sont appelés par le Père vont entrer dans la maison, vont entrer dans la bergerie. Dans 2 Timothée 2, les versets 3 à 9, je vais vous lire un autre passage parce que j'aime la conclusion du passage, vraiment la dernière ligne encore une fois. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et ça fait écho encore aux souffrances des apôtres ici qui lui-même, Paul, souffrait. Puis on voit Pierre qui est en prison, Jacques qui meurt. Et voici ce que Paul dit à son protégé Timothée. Il lui dit « Souffre avec moi » 2 Timothée 2, 3 à 9. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. » Et Paul est en train de dire, « OK, ça se peut qu'ils aient ma peau, mais encore. Puis après, ça sera ma promotion dans la gloire. Et la parole de Dieu n'est pas liée. » Acte 12, la parole de Dieu se répandait pendant ce temps-là. Et les gens se convertissaient. Parce que cette aventure-là, cette histoire fabuleuse-là, ne reposait pas sur les épaules de l'apôtre Paul, ne repose pas sur mes épaules, ni sur les vôtres, ni sur celles d'aucune église. Elle repose sur les épaules de Christ, et croyez-moi, il y a des épaules assez larges pour porter ça. Et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir s'opposer à lui et empêcher que son œuvre n'avance. Christopher Hitchens est décédé l'année dernière. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, un des leaders du mouvement New Atheist, qui est une nouvelle attaque athée contre le christianisme. Et c'était un homme très brillant, un homme avec beaucoup de classe, mais en même temps un homme très agressif contre le christianisme particulièrement. Dans son livre intitulé « Dieu n'existe pas », le sous-titre c'est « Comment la religion nuit », comment la religion est destructrice. Christopher Hitchens est allé faire face à Dieu. Et il n'est plus, mais le christianisme continue à avancer. Et vous savez, des fois c'est troublant parce qu'on regarde les choses aller, puis on dit oui, mais il y a des religions qui avancent, puis on a l'impression dans notre société que c'est de plus en plus séculier. Et c'est le cas, c'est vrai. Soyons honnêtes, c'est vrai que c'est ça. Mais en même temps, dernièrement, j'ai eu le privilège de souper avec Don Carson, qui va venir donner une conférence ici cet automne, Puis, M. Carson, a le privilège de pouvoir voyager un peu partout. Dernièrement, il était en Europe pour une conférence. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, chaque fois qu'on arrive avec le mouvement Gospel Coalition dans différents pays, on voit vraiment qu'on est précédé par une œuvre de l'Esprit. Et Carson a dit quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. Il dit, je peux dire aujourd'hui que je suis très encouragé de voir l'œuvre de Dieu qui est en train d'avancer. Et je n'aurais pas été capable de dire ça de la même manière il y a 15 ans. Et donc, en même temps qu'on voit des grands pans des mouvements évangéliques, des églises protestantes qui deviennent de plus en plus libérales, ne croient plus dans l'inspiration entière des Écritures, abandonnent plein d'éléments de doctrine, des sociétés qui se sécularisent, en même temps, nous voyons au sein de l'Église de Jésus-Christ des mouvements puissants, des mouvements de fond, où on voit des nouvelles générations qui s'approprient l'Évangile entier, sans en retrancher quoi que ce soit, avec une conviction forte. Et c'est en train de se produire partout sur la terre, ce mouvement-là. L'Église demeurera toujours un mouvement marginal. Ça va toujours être le cas. C'était le cas ici à Jérusalem. Et si des fois, dans l'histoire de l'humanité, on a observé des moments où le christianisme avait la cote, ça dure quelques temps. Profitez-en. Évangélisez, parlez, profitez-en. Ça dure juste quelques temps. On n'est pas destiné à avoir la cote. Notre message, fondamentalement, c'est « Regarde, t'es un crotté comme moi, t'es un pécheur, Puis si tu ne te mets pas en règle avec le Seigneur, un jour, tu vas faire face à ton juge. Écoutez, ça prend vraiment des belles circonstances pour que ça garde la cote, un message comme celui-là. Non, Jésus t'aime, mais il faudrait premièrement que tu reconnaisses que tu fais vraiment dur. Puis tu sais, tu n'as vraiment rien dans le fond à offrir à Dieu, tu as besoin juste de sa grâce. Tu ne vends pas ça longtemps avant qu'on claque la porte, là. Mais en même temps, depuis la Pentecôte, le mouvement ne s'est jamais arrêté. Et on a essayé d'éliminer les Écritures et on a essayé de le faire de différentes manières, physiquement, par les persécutions, par la sécularisation, par une pensée qui dit qu'on n'a plus besoin de ça. Et les spécialistes qui étudient l'humanité, qui s'attendaient à voir la société se séculariser de plus en plus, un peu partout sur le monde, sont confondus parce qu'ils voient des percées du mouvement séculier. Puis en même temps, ils voient que dans l'être humain, il y a ce besoin profond de croire. Parce que pour une grande majorité de la population mondiale, l'univers ne trouve de sens que s'il y a un créateur derrière tout cela. Et l'Église de Jésus-Christ, qui annonce le message unique du salut en Jésus-Christ seul, avance malgré cela. Voyez-vous, dans ce passage, on voit qu'on ne se moque pas de Dieu. On peut faire une petite nuance, pas tellement longtemps en tout cas. Parce qu'Hérode avait décidé de se moquer de Dieu. Et il y a une espèce de jeu qui est là. C'est le même mot en grec qu'on a pour le moment où l'ange vient puis il s'en va vers Pierre puis il frappe pour le réveiller. C'est le même mot exactement qu'on a, mais c'est pas exactement la même type tape d'amour là, tu sais, qu'il a reçu lorsque l'ange est venu frapper Hérode. Ce qui est intéressant avec la mort d'Hérode, c'est que, vous savez, dans ces récits très, très précis à l'intérieur des Écritures, on n'a pas toujours des échos de ça dans les recherches historiques, archéologiques, tout ça. Donc, des fois, il y a des épisodes, on n'a que la Bible pour nous dire que ça s'est passé comme ça. Et donc, plusieurs vont se servir de ça. Mais en même temps, il y a des moments très importants où on a un écho. Et dans le cas de la mort d'Hérode, Joseph, certains d'entre vous, ça vous dit quelque chose, historien juif de l'époque, Joseph nous relate la mort d'Hérode. Il nous parle du même contexte où il s'est rendu là-bas à Césarée, puis c'était pour aller rencontrer des rois, et puis il était habillé, il décrit même sa tenue vestimentaire royale et son arrogance, et le fait que soudainement il a été atteint d'une maladie, en quelques jours il a dépéri, et il est mort. Alors Joseph ne dit pas que c'est un ange qui l'a frappé. Mais voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu, ou très peu longtemps. Et avant longtemps, on se retrouve devant Dieu de toute manière. Alors que ce soit ici, parce que notre vie est écourtée, ou que ce soit parce qu'on vit longtemps, mais on doit se présenter devant Dieu, tôt ou tard, je vais me taire dans la présence de Dieu. Alors je reviens avec ma question, parce que pour moi, la vie de Pierre ici, l'attitude de Pierre me parle énormément. À qui ou à quoi est-ce que tu vas consacrer ta vie? Parce que de toute manière, la trame de fond, c'est que le royaume de Dieu va avancer. Que tu embarques ou non, que tu le veuilles ou non, le royaume de Dieu va continuer à avancer. Ça, c'est la trame de fond. La fin de l'histoire, on la connaît déjà. Jésus-Christ, de la même manière, avec sa même fidélité, va revenir, va régner dans la gloire. Alors, à qui et à quoi vas-tu consacrer ta vie? Dans le passage ici, on trouve l'apôtre Pierre qui est en prison. Et puis, écoutez, c'est la première fois qu'on a un des apôtres qui est mis à mort. Les historiens, les traces historiques qu'on a nous disent que probablement que tous les apôtres sont morts d'une manière ou d'une autre martyrs. On ne peut pas avoir des certitudes sur tout ça. Ce n'est pas tout inscrit ici, puis on n'a pas toujours toute la documentation. Mais plusieurs le sont. Ici, on a le premier, Jacques, l'apôtre, meurt. Et Hérode, qui le met à mort, écoute l'écho de la ville. Comment est-ce que c'est perçu cette affaire-là? Le feeling est bon. Hey, on est sur quelque chose, les amis, là. On a quelque chose ici. Si on en faisait un autre comme ça, je pense que la cote va continuer à monter. Et donc, on trouve l'apôtre Pierre la veille, probablement, de sa mise à mort. Parce qu'écoutez, ce qui est attendu, c'est que le lendemain, Hérode va présenter Pierre à la foule, puis ça nous ramène carrément à ce moment où Christ lui-même a paru devant la foule. Alors, Luc est en train de nous dire, regardez où on s'en va, là, c'est ça qui va se passer. Et on trouve Pierre, qui est entouré de gardes. Vous vous rappelez qu'il est déjà sorti une fois de prison. Il y a des circonstances, des individus, des fois que t'entoures un petit peu plus que d'autres. Alors, celui-là est particulièrement entouré, enchaîné, après deux soldats. Et Pierre, est en train de dormir. Il est à quelques heures de sa mise à mort. Tu sais pas, il se dit, faut être en forme pour une journée comme ça. Je veux être comme ça. Tu sais, pas le goût d'avoir les yeux pochés, moi. Il s'en va à sa mise à mort. Pierre savait. C'est quoi la réponse à la question que je vous ai posée tout à l'heure? Pierre avait déjà sa réponse. À quoi ou à qui est-ce que j'ai consacré ma vie? À l'Évangile de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, soli deo gloria. Et donc Pierre se couche et s'endort la veille de sa mise à mort. Tellement que, comme dans les Actes, on a plusieurs miracles, lorsqu'un ange vient et intervient, Pierre se dit, ah, quel beau rêve. C'est vrai que ça aurait été le fun si ça s'était passé comme ça, hein? Encore une fois, un ange qui intervient, puis oh, je peux sortir. Passer devant les gardes avec un cloak d'invisibilité, excusez-moi. Il ne nous voit même pas. Sortir dehors. Mais il sort dehors et il dit, c'est vrai! Il ne croyait même pas. Il pensait qu'il était en train de rêver. Et ce que je retiens de ça, c'est que Pierre était prêt à mourir. La destinée de sa vie était déjà choisie. C'était pas une difficulté pour lui. Maintenant, dans le contexte, c'est encore plus fort parce que ça veut dire que Pierre avait décidé d'abandonner sa vie entre les mains d'un Dieu souverain. Vous savez, on n'est pas dans une passe où comme il y a plein de gars qui rentrent en prison et ils sortent tous, tu sais. Vous savez, comme lorsqu'on prie dans l'église parce qu'il y a des gens qui sont malades, puis là, tu pries pour un, puis oh, Dieu le relève, puis oh, Dieu le relève. Tu dis, oh man, on est sur une bonne frippe, là. Je pense que ça va aller, le prochain, ça va aller dans ce sens-là. Non, le prochain, il est mort. Le précédent, c'est-à-dire, il est mort. Comprenez? Fait que, puis là, t'es la veille. Fait que je sais pas, je commencerai à me dire à ce moment-là, bon, Seigneur, t'as décidé que c'est là que ça se passait. Tu nous avais dit que ça se passerait comme ça. Tu nous avais dit qu'il allait nous traiter comme il t'avait traité. Mais Pierre a déjà choisi d'abandonner sa vie, de déposer sa vie entre les mains d'un Dieu souverain, qui va décider d'en sauver un et d'en laisser un autre mourir pour l'avancement de son royaume parce qu'il a choisi ainsi. Et Pierre n'est pas dans les questionnements existentiels de dire « Pourquoi Dieu? » Jacques a été promu dans la gloire, ça a l'air que ma promotion s'en vient. On va se coucher pour dormir. Demain, on a un témoignage à rendre. Il avait déjà choisi d'abandonner sa vie entre les mains d'un Dieu souverain. Et s'il y a quelqu'un ici qui pouvait commencer à crier à Dieu et dire, mais pourquoi, Seigneur? Avec tout ce que j'ai donné pour toi, avec tout ce que Jacques a donné pour toi, Seigneur. Avec l'Évangile et tout le travail qui reste à faire, Seigneur. Qui aurait pu questionner la souveraineté de Dieu. Mais Pierre choisit de se coucher. Et il a le cœur en paix. Vous savez, des fois, on s'en va se coucher et on ne dort pas. Mais lui, il dormait. Et je ne peux pas croire à ce point-ci que Pierre est un total innocent. Là. Je sais que des fois, il est flyé, Pierre, mais non, tu sais, il y a quand même ces petites zones d'insécurité, Pierre. Marcher sur l'eau 2-3 pas, ça va plus, pas sûr. Fait que je pense que s'il avait été inquiet, il n'aurait pas dormi. Mais il dort. Il dort mieux que moi, j'ai dormi depuis les dernières semaines. Ça me parle. Parce que Pierre avait déposé sa vie entre les mains d'un Dieu souverain. Il avait accepté que ce Dieu-là donne la bénédiction et donne parfois, permet dans nos vies la souffrance. Et sa vie était déposée entre les mains de ce Dieu souverain parce qu'il savait dans son cœur qu'ultimement, il avait donné son cœur et sa vie à celui qui s'était donné pour lui-même. Et que quoi qu'il survienne dans sa vie, dans sa mort, ça lui était donné ou accordé par un Dieu bon qui l'aime et qui veille sur lui. Et cela lui permettait de se reposer, d'être calme, d'être serein. Comment ça va dans votre vie de ce temps-ci? Est-ce que vous êtes rempli d'inquiétude? Est-ce que vous êtes tracassé, torturé par toutes sortes d'inquiétudes? Dans les deux dernières semaines, j'ai vécu des trucs, puis honnêtement, j'ai vécu des grosses remises en question parce que je n'arrivais pas à trouver cet endroit-là où je me dépose, je me repose en Jésus-Christ. Comme on chantait tantôt, Jésus, sois le centre, Sois mon rocher, Seigneur. Et Dieu montrait à travers ça qu'il n'était pas le centre. Mais si je choisis de consacrer ma vie à Jésus-Christ, il va y avoir des hauts et des bas, mais si je choisis de consacrer ma vie à Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, quel que soit mon champ de service, quel que soit l'endroit où je suis appelé à servir, si je choisis de lui consacrer ma vie, je vais pouvoir trouver ce repos en lui. Sachant que c'est le Dieu souverain qui donne des bénédictions, qui permet des épreuves aussi. Mais sachant que je suis entre les mains de celui qui m'attend, qui me prépare une place au ciel. De celui qui, en perspective de l'éternité, va être le seul qui va compter. Parce qu'un jour, je vais être dans la gloire, dans sa présence, avec lui. J'aimerais vous lire le passage de Philippiens 1, les versets 19 à 21. Encore l'apôtre Paul, mais encore une fois, vers la fin, il y a cette phrase merveilleuse que j'aime. Philippiens 1, 19 à 21, je vous le lis. « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, et voici ce qui m'intéresse, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Et ici, l'apôtre Paul espérait être libéré, c'est ce qu'il avait comme attente, mais en même temps, il pouvait se coucher chaque soir en disant, « Peu importe, que je meure ou que je vive, que je sois libéré ou que je reste en prison, ce qui m'attend, c'est la rencontre de Christ. Alors Seigneur, si je suis encore utile à toi pour quelque temps sur la terre, garde-moi ici, mais si tu veux tout de suite m'appeler dans la gloire, je suis prêt, Seigneur. Parce que lorsque je vais me présenter devant toi, je vais pouvoir dire, voici ce à quoi j'ai consacré ma vie. Saisir Christ, le connaître, le servir, le glorifier devant les hommes. Aimer Dieu, aimer les hommes à cause de Jésus-Christ. Servir Dieu, servir les hommes à cause de Jésus-Christ. Paul avait cette paix, voyez-vous, qui était là. Parce que cette décision était prise. Que vous puissiez prendre cette décision-là aujourd'hui. De consacrer votre vie, vos énergies, à l'œuvre de Jésus-Christ, quel que soit votre champ où vous êtes appelé à servir, quelle que soit votre situation de vie, où vous viviez actuellement, quelle que soit votre situation conjugale, quel que soit votre état familial, ceci importe peu, dans le sens que vous pouvez prendre la décision de vivre pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Et par la grâce de Dieu, vous allez pouvoir entrer dans ce calme, ce repos, de savoir que ça se peut que je parte maintenant. Si je survis à un accident cette semaine, je pourrais partir dans un autre la semaine prochaine. C'est plus ou moins important parce que je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. Et donc, je vais consacrer mes journées. Voyez-vous, une fois qu'on prend cette décision-là, on devient comme Pierre qui est libéré de prison. Puis J'imagine difficilement Pierre être libéré de prison puis bon aller faire son rapport à la gang qui priait pour lui. Ils ont dû jouer un rôle là-dedans puis dire « Agence de voyage, c'est le temps, mes 2 semaines à Cuba. » Ça a passé comme à un cheveu que je puisse pas aller en vacances. Fait que là, je vais rattraper tout le temps perdu. Non, ça semble pas ça être le ton. Pierre repart puis il dit « Ok Seigneur, une autre pour toi demain. » Je vais l'annoncer ton évangile, Seigneur. Je vais vivre pour toi. Les gens autour de moi qui vont me voir vont me regarder vivre puis vont dire, celui-là, c'est un chrétien. Parce que c'est un pourri, repentant, transformé. Parce que c'est un pécheur qui s'est demandé pardon. Parce que c'est un pécheur qui sait pourquoi il est là sur la terre. Parce que c'est quelqu'un d'imparfait, mais qui sait qu'il n'est pas ici pour poursuivre son confort matériel, son argent, sa carrière, poursuivre... Toutes sortes de choses qui, en perspective de l'éternité, sont très, très, très secondaires. Mais il vit pour une cause, pour un nom, Jésus-Christ, quoi qu'il soit en train de faire. Et cela a un impact sur mes journées. Parce que si j'ai une extrêmement mauvaise journée, avec des épreuves, puis tout va mal, j'ai la possibilité de me lever le matin et de me coucher le soir en disant, « Seigneur, je l'ai vécu pour toi, celle-là. Je suis prêt, tu peux venir me chercher. Et demain, elle sera encore pour toi, Seigneur. » Et je peux être dans la maladie, être à l'hôpital, comme plusieurs des sœurs actuellement de l'Église qui sont à l'hôpital et qui ne savent pas combien de temps leur reste. Mais ça devient secondaire. Quand je suis allé visiter Claudette il y a quelques semaines, Claudette Bourdage, écoute, c'est difficile ici, puis je m'en vais dans mon palais. Ce qui la préoccupait, c'est ce qu'elle laissait derrière comme témoignage à sa famille. À nous de choisir à qui ou à quoi nous allons consacrer notre vie. Et enfin, je pense une dernière leçon qui est vraiment intéressante dans le passage ici. À nous de choisir vers qui nous allons nous tourner quand les choses vont mal. Je trouve qu'il y a une leçon super géniale sur la prière ici. Si j'ai décidé de consacrer ma vie à Jésus-Christ, à l'avancement de son royaume, quand ça va mal, c'est vers lui que je vais me tourner. Mais dans le passage ici, la situation est particulière parce que l'Église est en train de prier. Et vous savez, on se pose des grandes questions sur la prière. Cette année, on a décidé qu'on voulait grandir dans le domaine de la prière. On essaie de prier. Puis on est avec certains passages où le Seigneur Jésus dit lui-même, « Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. » Puis là, on s'en va dans la prière puis on est rempli d'incrédulité. Moi, je vous dirais que cette question-là est quand même secondaire. La première question, c'est « Qui est-ce que j'ai décidé de servir et vers qui est-ce que je vais me tourner quand ça va mal? » Pierre, dans son cas, c'est clair. Il a décidé de servir Dieu, il est prêt à mourir, c'est secondaire pour lui. Et vers qui il se tourne quand ça va mal? Vers Dieu. Sa vie est entre les mains de Dieu. L'Église qui est en train de prier pour lui a décidé de servir Dieu. Est-ce que ce sont des modèles extraordinaires de prière qu'on a là? Oui puis non. Moi, je vois des gens qui ne croient pas vraiment à l'exaucement de leur prière. Vous savez, ils sont en train de prier, puis quand Pierre apparaît, il commence à dire des niaiseries, là. Il est juste au bord de la porte. La prière et les réponses à la prière ne dépendent pas toujours et uniquement de notre foi. Le Saint-Esprit sait prier lorsqu'on ne sait pas comment prier. Et si tu manquais de foi, ça, pas savoir comment prier? Mais le Saint-Esprit sait comment prier. Cette Église-là est dans la prière, puis je pense que rendu à ce point-ci, on est à la veille où il va comparaître. Ça commence plutôt à être, « Oh, merci Seigneur pour Pierre, il a été un bon témoignage pour toi, Seigneur. On te demande de consoler sa famille parce que ce ne sera pas facile à traverser. Seigneur, donne-lui du courage pour qu'il ne soit pas tremblant lorsqu'il va paraître, puis qu'il puisse encore prononcer une parole pour toi, Seigneur, au dernier moment. » Mais la dernière affaire qui s'attend, c'est sûr, est-ce que Pierre cogne à la porte? Ça, c'est impossible. Il commence à dire des niaiseries. Il y avait dans la culture juive cette idée, on trouve la notion d'ange protecteur dans la culture juive plus que dans les Écritures, d'accord? Mais c'était là, c'était présent. Et certains théologiens allaient jusqu'à dire que si un ange t'était assigné pour te protéger, cet ange-là pouvait avoir comme ta représentation, te ressembler. Il me semble que c'est bizarre, mais c'est ce qu'on trouve comme explication. Pourquoi est-ce qu'ils disent « c'est son ange », c'est quoi cette affaire-là? La servante s'en va à la porte, puis elle entend sa voix, et sûr que c'est Pierre. Pierre venait régulièrement dans cette maison-là. Elle le connaissait, peut-être qu'elle-même était dans la foi, puis elle n'ouvre pas la porte. Pourquoi? C'est simple. Est-ce que c'est un piège? C'est qui est au bord de la porte? Je dis, Pierre est en prison, vous comprenez? Il faut peut-être sortir par la porte d'en arrière à toute vitesse, là. Mais elle entend la voix de Pierre, puis elle s'en va là-bas, puis elle dit, non, c'est Pierre! Les autres, ils ne croient pas cela. Frères et sœurs, le choix qui repose entre nos mains, c'est de décider de suivre Jésus-Christ, de lui donner sa vie et se tourner vers lui quand ça va mal. Et on n'est pas appelé à faire ça à perfection pour plaire à notre Seigneur. On n'est pas appelé à être toujours juste là au niveau de la foi, puis c'est « Oh, je suis quelqu'un de foi, tu sais. » Notre relation avec Dieu, c'est premièrement un cri vers Dieu. C'est premièrement se tourner vers Dieu. C'est comme ça que vous êtes entrés dans la foi. Tous ceux ici qui êtes chrétiens, vous êtes devenus chrétiens, pas en disant, « Seigneur, tu me veux dans ma gang, je vais être tellement sacoche, mais tu vois, moi je vais être une copie de Jésus. » C'est pas comme ça qu'on devient chrétien, n'est-ce pas? On devient chrétien en disant, « Je ne l'ai vraiment pas. » Puis comme, « Je me suis planté sur toute la ligne. J'ai pas grand-chose à t'offrir. Puis tu m'offres ta grâce. Je t'offre ma vie, Seigneur. » Essaye de faire quelque chose avec ça, s'il te plaît. Ça ressemble à ça, la conversion. Voyez-vous, on entre dans la vie chrétienne avec un cri du cœur. C'est la posture à garder dans la prière. Vous avez donné votre vie à Jésus-Christ comme un cri du cœur, sans prétention, sans dire « je suis hot, tu me veux dans ton équipe ». Dans la prière, c'est la même chose. Et le Seigneur va nous faire grandir et on va apprendre à grandir dans notre foi et on va devenir de plus en plus des gens qui prient avec foi. Mais il y a des moments où On perd le contact avec la réalité, on perd nos certitudes, parce que c'est la famille qui va pas bien, parce que c'est des gens proches, parce que les évidences vont dans le sens de dire « ça ira pas comme tu veux, mon ami, je pense que Dieu te l'accordera pas, celle-là. » Continuez à crier à Dieu. Continuez à prier pour vos proches. Avec l'attitude de l'Église de Jérusalem ici, je pense qu'ils étaient déjà plus en train d'intercéder pour la libération de Pierre. Ils étaient comme louange, complainte, je sais pas trop quoi. Mais ils n'y croyaient pas vraiment. On est à minuit moins une ici pour Pierre. Et Dieu décide d'intervenir. Il n'a pas fait pour Jacques. Alors priez pour vos enfants. Priez pour votre famille. Dieu, dans sa souveraineté, va faire ce qui lui semble bon. Intercédez pour le salut des âmes autour de vous. Priez pour les Québécois. Priez pour Longueuil. Priez pour le salut des âmes dans le monde. Priez pour les frères et sœurs qui, vous voyez, sont en des difficultés familiales, conjugales. Priez quand vous n'avez pas la foi que Dieu va tout faire. Mais priez. Tournez-vous vers lui pour attendre de lui le secours. Parce qu'après tout, cette aventure-là, c'est pour la gloire de Dieu. Et même dans les moments où je manque de foi en Dieu et qu'il me surprend en exaucant des prières que j'avais poussées du bout des lèvres avec pas mal d'incrédulité, quand il les exauce, son nom est encore glorifié. Le royaume de Dieu va avancer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Malgré les apparences, malgré ce qu'on peut voir, malgré ce que vous pouvez voir dans votre famille, le royaume de Dieu va continuer à avancer. C'est une certitude parce qu'elle ne dépend pas de nous. Dieu l'a démontré à travers 2000 ans jusqu'à présent par l'avancement de l'Église de Jésus-Christ. Et elle est en train d'avancer. Ça, c'est une absolue certitude. La question pour nous, c'est est-ce que nous allons déposer notre vie à son service et à sa gloire? En aimant les hommes et en servant Dieu, ou est-ce que nous allons consacrer notre vie à poursuivre des choses futiles qui vont nous laisser le cœur troublé et inquiet, le cœur amer, plutôt qu'avoir le cœur en paix quand les circonstances deviennent difficiles comme c'est le cas de Pierre? Vers qui on va se tourner lorsque nos certitudes sont ébranlées, quand le monde entier semble être contre nous comme c'était le cas de l'Église à Jérusalem? Moi, j'ai décidé de me tourner vers Jésus-Christ, de lui consacrer ma vie entière. Et je sais que c'est le cas pour un grand nombre d'entre vous. Mais je sais aussi que pour plusieurs d'entre vous qui êtes chrétiens, votre vie chrétienne est malheureuse parce que vos cœurs sont partagés. On a commencé l'année 2012 en parlant des idoles du cœur. Et je vous ai dit que j'allais vous en reparler pendant l'année. Si votre cœur est partagé entre Dieu et entre certaines idoles, qui sont là et qui prennent la place de l'adoration. Des choses mauvaises, mais des choses saines aussi. Tout à l'heure, je parlais de poursuivre de l'argent. Je veux réussir, je veux être capable de faire vivre ma famille, je veux être capable d'être généreux. Ce n'est pas fondamentalement malsain, cette affaire-là. Mais tout ceci se transforme en idole quand c'est l'objectif de ma vie. Et cette idole-là domine ma vie et je deviens esclave de mammon, de l'argent. Si vos cœurs sont partagés, si vous n'avez pas pris cette décision formelle de consacrer votre vie à la gloire de Dieu uniquement, vous ne pourrez pas trouver ce calme extraordinaire que Pierre ici. Et si vous n'êtes pas chrétien, parce que vous écoutez ce message-là, ça vous intrigue, ça vous fait réfléchir, ou parce que vos parents vous traînent ici avec le bras tordu dans le dos, moi, je veux vous dire que j'ai une certitude parce que je regarde comment l'Église avance à travers les siècles, comment l'Église avance actuellement sur la terre. Et j'ai cette certitude dans mon cœur qu'il y a un Dieu créateur qui est là, qui s'est révélé à travers la personne de son Fils, Jésus-Christ, que ce Fils est venu s'offrir en mourant sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour accomplir une chose, afin que des personnes imparfaites comme vous et moi, pécheurs, puissent être pardonnées de tous leurs péchés et se présenter devant Dieu pour lui dire « Seigneur, je veux te servir jusqu'à ton retour. » Et entrer dans cette vie paisible que connaît ici l'apôtre Pierre et pouvoir se tourner vers lui dans les moments difficiles. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ce beau passage, Seigneur. Père, à travers le livre des Actes, tu me permets d'entrer en contact avec des vies, des personnes qui ont vécu des choses réelles, des choses difficiles, la mort, la prison, la perte de proches, des gens qui ont vécu la foi avant moi, qui sont passés par ces moments-là, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux t'adorer parce que cette semaine, tu me rappelais ta fidélité, tu me rappelais ta constance, tu me rappelais ta souveraineté, ta puissance, Seigneur. Et je crois que malgré les guerres dans le monde, malgré la souffrance, malgré les gens qui souffrent, je crois, Seigneur Jésus, que tu continues ton œuvre et tu sauves encore aujourd'hui. Et tu vas sauver encore demain. Et tu bâtis ton Église. Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs, je veux le déclarer encore une fois, Seigneur. J'ai choisi personnellement de consacrer ma vie à ton œuvre, à la manifestation de ta gloire dans ma vie, dans ma famille, dans cette Église, Seigneur. Et ma plus grande joie, c'est de conduire quelqu'un à consacrer sa vie à ta gloire, à reconnaître l'amour de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de sa vie. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Tu es précieux pour moi et tu es ma joie. Amen.